Guy de Maupassant, Ça ira. J'étais descendu à Barville uniquement parce que j'avais lu dans un guide, oh, je ne sais plus lequel, beau musée de Rubens, Saint-Aignier à Ribéra. Donc je pensais, ben allons voir ça. Je dînerai à l'hôtel de l'Europe, que le guide affirme excellent, et je repartirai le lendemain. Le musée était fermé. On ne l'ouvre que sur la demande des voyageurs. Il fut donc ouvert à ma requête, et je pus contempler quelques croûtes attribuées par un conservateur fantaisiste au premier maître de la peinture. Puis, je me trouvai tout seul, et n'ayant absolument rien à faire, dans une longue rue de petite ville inconnue, bâtie au milieu de plaines interminables, je parcourus cette artère, j'examinai quelques pauvres magasins, puis, comme il était 4 heures, je fus saisi par un de ces découragements qui rendent fous les plus énergiques. Que faire, mon Dieu, que faire? J'aurais payé 500 francs l'idée d'une distraction quelconque. Me trouvant à sec d'invention, je me décidai tout simplement à fumer un bon cigare et je cherchais le bureau de tabac. Je le reconnus bientôt à sa lanterne rouge et j'entrai. La marchande me tendit plusieurs boîtes au choix. Ayant regardé les cigares que je jugeais détestables, je considérais par hasard la patronne. C'était une femme de 45 ans environ, forte et grisonnante. Elle avait une figure grasse, respectable, en qui il me sembla trouver quelque chose de familier. Pourtant, je ne connaissais point cette dame. Non, je ne la connaissais pas assurément. Mais ne se pouvait-il faire que je l'eusse rencontrée? Oui, c'était possible. Ce visage-là devait être une connaissance de mon œil, une vieille connaissance perdue de vue et changée, engraissée énormément sans doute. Je murmurai, « Excusez-moi, madame, de vous examiner ainsi, mais il me semble que je vous connais depuis longtemps. » Elle répondit en rougissant, « Oui, c'est drôle, moi aussi. » Et je poussai un cri, « Ah, ça ira !» Elle leva ses deux mains avec désespoir, épouvantée de ce mot et balbutiant, « Oh, oh, si on vous entendait !» Puis soudain, elle s'écria à son tour, « Mais tiens, c'est toi, Georges !» Puis elle regarda avec frayeur si on n'avait point écouté. Mais nous étions seuls, bien seuls. Ça ira. Comment avais-je pu reconnaître ça ira? La pauvre ça ira, la maigre ça ira, la désolée ça ira, dans cette tranquille et grasse fonctionnaire du gouvernement. Ça ira. Que de souvenirs s'éveillèrent brusquement en moi. Bougival, la Grenouillère, Chatou, le restaurant Fournaise, les longues journées en yole au bord des berges, 10 heures de ma vie passée dans ce coin de pays, sur ce délicieux bout de rivière. Nous étions alors une bande d'une douzaine habitant la maison Galpois à Chatou, et vivant là d'une drôle de façon, toujours à moitié nue et à moitié gris. Les mœurs des canotiers d'aujourd'hui ont bien changé. Ces messieurs, aujourd'hui, portent des monocles. Or, notre bande possédait une 20aine de canotières, régulières et irrégulières. Dans certains dimanches, nous en avions 4, dans certains autres, nous les avions toutes. Quelques-unes étaient là, pour ainsi dire, à demeure, et deux autres venaient quand elles n'avaient rien de mieux à faire. 5 ou 6 vivaient sur le commun, sur les hommes sans femmes et... Parmi celles-là, ça ira. C'était une pauvre fille maigre et qui boitait. Cela lui donnait des allures de sauterelle. Elle était timide, gauche, maladroite en tout ce qu'elle faisait. Elle s'accrochait avec crainte aux plus humbles, aux plus inaperçus, aux moins riches de nous, qui la gardaient un jour ou un mois, suivant ses moyens. Comment s'était-elle trouvée parmi nous? Personne ne le savait plus. L'avait-on rencontrée un soir de pochardise au bal des canotiers et emmenée dans une de ces rafles de femmes que nous faisions souvent? L'avions-nous invitée à déjeuner en la voyant seule assise à une petite table dans un coin? Aucun de nous ne l'aurait pu dire, mais elle faisait partie de la bande. Nous l'avions baptisée Saïra parce qu'elle se plaignait toujours de la destinée, de sa malchance, de ses déboires. On lui disait chaque dimanche « Eh bien, Saïra, ça va-t-il » Et elle répondait toujours « Non, pas trop, mais faut espérer que ça ira mieux un jour. » Comment ce pauvre être disgracieux et gauche était-il arrivé à faire le métier qui demande le plus de grâce, d'adresse, de ruse et de beauté? Mystère. Paris, d'ailleurs, est plein de filles d'amour, l'aide à dégoûter un gendarme. Que faisait-elle pendant les 6 autres jours de la semaine? Plusieurs fois, elle nous avait dit qu'elle travaillait, mais à quoi? Nous l'ignorions, indifférents à son existence. Et puis, je l'avais à peu près perdue de vue. Notre groupe s'était émietté, peu à peu, laissant la place à une autre génération, à qui nous avions aussi laissé Saïra. Je l'appris en allant déjeuner chez Fournaise de temps en temps. Nos successeurs, ignorant pourquoi nous l'avions baptisée ainsi, avaient cru à un nom d'oriental et la nommaient Zaïra. Puis ils avaient cédé à leur tour leur canot et quelques canotières à la génération suivante. Une génération de canotiers vit en général 3 ans sur l'eau, puis quitte la Seine pour entrer dans la magistrature, la médecine ou la politique. Zaïra était alors devenue Zara, puis plus tard Zara s'était encore modifiée en Sara. On la crut alors israélite. Les tout derniers, ceux à monocle, l'appelaient donc tout simplement la juive. Puis elle disparut, et voilà que je la retrouvais marchande de tabac à Banvilliers. Je lui dis, eh bien, ça va donc à présent? Elle répondit, un peu mieux. Une curiosité me saisit de connaître la vie de cette femme. Autrefois, je n'y aurais point songé. Aujourd'hui, je me sentais intrigué, attiré, tout à fait intéressé. Je lui demandais, mais comment as-tu fait pour avoir de la chance? Moi, je ne sais pas, ça m'est arrivé comme je m'y attendais le moins. Est-ce à Chatou que tu l'as rencontré? Oh non! Où ça donc? À Paris, dans l'hôtel que j'habitais. Ah, est-ce que tu n'avais pas une place à Paris? Oui, j'étais chez Madame Ravelet. Qui ça, Madame Ravelet? Tu connais pas Madame Ravelet, oh? Mais non, mais la modiste, la grande modiste de la rue de Rivoli. Et la voilà qui se met à me raconter 1000 choses de sa vie ancienne, 1000 choses secrètes de la vie parisienne, l'intérieur d'une maison de mode, l'existence de ces demoiselles, leurs aventures, leurs idées, toute l'histoire d'un cœur d'ouvrière, cet épervier de trottoir qui chasse par les rues le matin en allant au magasin, le midi en flânant nu-tête et après le repas et le soir en montant chez elle. Elle disait, heureuse de parler de l'autrefois, « Oh, si tu savais comment on est canaille et comment on en fait de roide, nous nous les racontions chaque jour, vrai, on se moque des hommes, tu sais. » Moi, la première rosserie que j'ai faite, c'est au sujet d'un parapluie. J'en avais un vieux en alpaga, un parapluie à en être honteuse. Et comme je le fermais en arrivant un jour de pluie, voilà la grande Louise qui me dit « Comment tu veux sortir avec ça ?» Mais j'en ai pas d'autre et en ce moment les fonds sont bas. Ils étaient toujours bas les fonds. Elle me répond « Mais va en chercher un à la Madeleine ?» Moi, ça m'étonne. Elle reprend « Mais c'est là que nous les prenons, toutes. On en a autant qu'on veut. » Et elle m'explique la chose. Oh, c'est bien simple. Donc, je m'en allais avec Irma à la Madeleine. Nous trouvons le sacristain et nous lui expliquons comment nous avons oublié un parapluie la semaine d'avant. Alors, il nous demande si nous nous rappelons son manche. Je lui fais l'explication d'un manche avec une pomme d'agate. Il nous a introduits dans une chambre où il y avait plus de 50 parapluies perdus. Nous les regardons tous et nous ne trouvons pas le mien. Mais moi, j'en choisis un beau, un très beau, un manche d'ivoire sculpté. Louise est allée le réclamer quelques jours après. Elle l'a décrit avant de l'avoir vu et on le lui a donné sans méfiance. Et pour faire ça, on s'habillait très chic. Et elle riait en ouvrant et laissant retomber le couvercle, la charnière de la grande boîte à tabac. Elle reprit. « Oh, on en avait des tours et on en avait de si drôles. Tiens, nous étions 5 à l'atelier, 4 ordinaires et une très bien, Irma, la belle Irma. Elle était très distinguée, elle avait un amant au Conseil d'État. Ça n'empêchait pas de lui en faire porter joliment. Voilà qu'un hiver, elle nous dit, « Vous savez pas, nous allons en faire une bien bonne. » Et elle nous conta son idée. Tu sais, Irma, elle avait une tournure à troubler la tête de tous les hommes, et puis une taille et puis des hanches qui leur faisaient venir l'eau à la bouche. Donc, elle imagina de nous faire gagner 100 francs à chacune pour nous acheter des bagues. Et elle arrangea la chose que voici. Tu sais que je n'étais pas riche à ce moment-là, les autres non plus. Ça n'allait guère. Nous gagnions 100 francs par mois au magasin, rien de plus. Il fallait trouver. Je sais bien que nous avions chacune 2 ou 3 amants habitués qui donnaient un peu, mais pas beaucoup. À la promenade de midi, il arrivait quelquefois qu'on amorçait un monsieur qui revenait le lendemain. On le faisait poser 15 jours et puis on cédait. Mais ces hommes-là, ça rapporte jamais gros. Ceux de Chatou, c'était pour le plaisir. Oh, si tu savais les Russes que nous avions. Vrai, c'était à mourir de rire. Donc, quand Irma nous proposa de nous faire gagner 100 francs, nous voilà tout allumés. C'est très vilain ce que je vais te raconter, mais ça fait rien. Tu connais la vie, toi, et puis quand on est resté 4 ans, Chatou. Donc, elle nous dit, nous allons lever au bal de l'opéra ce qu'il y a de mieux à Paris comme hommes les plus distingués, les plus riches. Moi, je les connais. Nous n'avons pas cru d'abord que c'était vrai, parce que ces hommes-là, ils sont pas faits pour les modistes. Pour Irma, oui, mais pas pour nous, non. Oh, elle était d'un chic, cette Irma. Tu sais, nous avions coutume de dire à l'atelier que si l'empereur l'avait connue, il aurait certainement épousé. Pour l'heure, elle nous fit habiller de ce que nous avions de mieux, et elle nous dit... Vous n'entrerez pas au bal, vous allez rester chacune dans un fiacre dans les rues voisines. Un monsieur viendra qui montera dans votre voiture. Dès qu'il sera entré, vous l'embrasserez le plus gentiment que vous pourrez, et puis vous pousserez un grand cri pour montrer que vous avez été très trompé, que vous en attendiez un autre. Ça allumera le pigeon de voir qu'il prend la place d'un autre, et il voudra rester par force. Alors vous résisterez, vous ferez les 100 coups pour le chasser et puis vous irez souper avec lui. Alors il vous devra un bon dédommagement. Hein, tu comprends point encore, n'est-ce pas? Eh bien voici ce qu'elle fit, la rosse. Elle nous fit monter toutes les 4 dans 4 voitures, des voitures de cercle, des voitures bien comme il faut. Puis elle nous plaça dans les rues voisines de l'opéra. Alors, elle alla au bal toute seule. Comme elle connaissait par leur nom les hommes les plus marquants de Paris, parce que la patronne fournissait leurs femmes, elle en choisit d'abord un pour l'intriguer. Elle lui en dit de toutes les sortes, car elle a de l'esprit aussi. Et quand elle le vit bien emballé, elle ôta son loup, et il fut pris comme dans un filet. Donc il voulut l'emmener tout de suite et elle lui donna rendez-vous dans une demi-heure dans une voiture en face du numéro 20 de la rue Taitbout. C'était moi dans cette voiture-là. Ah, j'étais bien enveloppé et la figure voilée. Donc, tout d'un coup, un monsieur passa la tête à la portière et il dit « C'est vous ?» Je réponds tout bas « Oui, c'est moi, montez vite !» Il monte et moi je le saisis dans mes bras et je l'embrasse. Puis je l'embrasse au lui couper la respiration. Puis je reprends « Oh, que je suis heureuse, que je suis heureuse !» Et tout d'un coup, je crie « Ah, mais c'est pas toi ! Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu !» Il me met à pleurer. Oh, tu juges, si voilà un homme embarrassé. Il cherche d'abord à me consoler, il s'excuse, il proteste qu'il s'est trompé aussi. Moi, je pleurais toujours, mais moins fort, et je poussais de gros soupirs. Alors il me dit des choses très douces. Oh, c'était un homme tout à fait comme il faut, et puis ça l'amusait maintenant de me voir pleurer de moins en moins. Bref, de fil en aiguille, il m'a proposé d'aller souper. Moi, j'ai refusé, j'ai voulu sauter de la voiture. Il m'a retenu par la taille, et puis embrassé, comme j'avais fait à son entrée. Et puis, nous avons soupé, tu comprends. Et il m'a donné, devine, voyons, devine, il m'a donné 500 francs. Crois-tu qu'il y en a des hommes généreux? Enfin, la chose a réussi pour tout le monde. C'est Louise qui a eu le moins avec 200 francs, mais tu sais, Louise, vrai, elle était trop maigre. La marchande de tabac allait toujours, vidant d'un seul coup tous ses souvenirs amassés depuis si longtemps dans son cœur fermé de délitante officielle. Tout l'autrefois, pauvre et drôle, remuait son âme. Elle regrettait cette vie galante et bohème du trottoir parisien, faite de privations et de caresses payées, de rires et de misère, de ruses et d'amour, vrai, par moments. Je lui dis « Et comment as-tu obtenu ton débit de tabac ?» Elle sourit « Oh, c'est toute une histoire. Figure-toi que j'avais dans mon hôtel, porte à porte, un étudiant en droit. » Mais tu sais, ces étudiants qui ne font rien. Celui-là, il vivait au café du matin au soir et il aimait le billard, comme je n'ai jamais vu aimer personne. Quand j'étais seul, nous passions la soirée ensemble, quelquefois. C'est de lui que j'ai eu Roger. Qui ça, Roger? Mais mon fils. Ah! Oui, il me donna une petite pension pour élever le gosse. Mais je pensais bien que ce garçon-là ne me rapporterait rien, d'autant plus que j'ai jamais vu un homme aussi fainéant. Oh, mais alors là, jamais. Au bout de 10 ans, il était encore à son premier examen. Et quand sa famille vit qu'on n'en pourrait rien tirer, elle le rappela chez elle en province, mais nous étions demeurés en correspondance à cause de l'enfant. Et puis figure-toi qu'aux dernières élections, il y a 2 ans, j'apprends qu'il a été nommé député dans son pays. Et puis il a fait des discours à la Chambre. Vrai, dans le royaume des aveugles, comme on dit. Mais pour finir, j'ai été le trouver, et il m'a fait obtenir tout de suite un bureau de tabac comme fille de déporté. C'est vrai que mon père a été déporté, mais j'aurais jamais pensé non plus que ça pouvait lui servir. Bref, tiens, voilà Roger. Un grand jeune homme entrait, correct, grave, poseur. Il embrassa sur le front sa mère qui me dit « Tenez, monsieur, c'est mon fils, chef de bureau à la mairie. Vous savez, c'est un futur sous-préfet. » Je saluai dignement ce fonctionnaire. Et je sortis pour gagner l'hôtel après avoir serré avec gravité la main tendue de Saïra. 10 novembre 1885.